VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
L'ONU conclut à l'exécution de 12 civils par l'armée le 19 mai dernier à Boulkessi, au Mali, près du Burkina Faso.
Au Nigeria, les éleveurs peuls rejettent la responsabilité des tueries du week-end et qui ont fait une centaine de morts dans le centre du pays.
Les rivaux sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar pourrait signer un accord aujourd'hui à Khartoum.
Au Maroc, les meneurs du Hirak de la région du Rif ont été condamnés à 20 ans de prison.
La Cour suprême des États-Unis donne une grande victoire au président Donald Trump en validant son décret migratoire.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde. Pour l'instant, l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde.
Une enquête de l'ONU dans le centre du Mali conclut à l'exécution sommaire de 12 civils le mois dernier à la suite de la mort d'un militaire malien lors d'une patrouille. C'est ce qu'a annoncé mardi la mission des Nations Unies, la MINUSMA. Elle avait annoncé en mai l'envoi d'une mission spéciale de sa division des droits de l'homme pour enquêter sur les incidents survenus le 19 mai 2018 à Boulkessi, près du Burkina Faso. La MINUSMA a exhorté les troupes maliennes et la force du G5 Sahel à conduire leurs opérations militaires conformément aux droits internationaux et à protéger la population civile.
Plusieurs groupes maliens, congolais et yéménites ont été ajoutés sur une liste noire annuelle de l'ONU d'entités violentes dans les guerres, les droits des enfants, liste annexée à un rapport du secrétaire général Antonio Guterres publié cette semaine. Dans ce document portant sur 2017, M. Guterres s'alarme d'une forte augmentation des violations. Ont été ajoutés en RDC les milices Bana et le groupe Kamuina Sapu et au Mali la plateforme qui inclut le groupe d'autodéfense des Touaregs Imgad et leurs alliés et les groupes d'autodéfense Ganda Iso et Ganda Koy.
Au Nigeria, les éleveurs peuls ont rejeté la responsabilité des attaques du week-end qui ont fait une centaine de morts dans le centre du pays. Pour sa part, le gouvernement tente d'apaiser les tensions croissantes entre communautés, des tensions qui ont déjà coûté la vie à au moins 86 personnes et Kabadou.
Le président Muhammadu Buhari est arrivé hier dans la capitale de l'État, Jos, pour des entretiens privés avec le gouverneur du plateau, Simon Lalonde. Son but est d'apaiser les tensions car la presse locale a publié de nombreux articles mardi matin suggérant que les éleveurs avaient reconnu avoir perpétré les récentes tueries dans l'État du plateau. Mais l'association des éleveurs de bétail a déclaré plus tard dans la journée que ces déclarations n'étaient rien d'autre que des mensonges. De son côté, la police avait déclaré que les violences de samedi dernier étaient perpétrées par des éleveurs peuls musulmans à l'encontre de la communauté chrétienne des agriculteurs Bérom. Le président Buhari, qui se présente à sa propre succession, est sous pression par ce conflit entre agriculteurs chrétiens et éleveurs musulmans. C'est un problème qui a déjà fait des centaines de morts depuis le début de l'année. Il est aussi accusé de ne pas prendre suffisamment parti en raison de ses origines Fulani.
Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande la libération de l'ancien ministre gabonais du pétrole Étienne Ngoubou, accusé de détournement de fonds publics et incarcéré depuis 17 mois sans avoir été jugé. Dans un texte parvenu à l'AFP, le groupe demande aux autorités gabonaises de libérer immédiatement l'ex-ministre du pétrole, une indemnisation et des soins médicaux appropriés et nécessaires pour M. Ngoubou qui souffre de diabète.
En Guinée-Bissau, les fonctionnaires ont entamé hier une grève de 3 jours pour réclamer une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de travail. Le point avec Jean-Roger Bion.
La grève a été déclenchée par l'Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau, la plus grande centrale qui représente quelque 13 000 fonctionnaires. Hier à Bissau, les ministères étaient fermés et un service minimum garanti dans les hôpitaux. Le syndicat réclame un relèvement du salaire minimum de 19 000 à 59 000 francs CFA et de meilleures conditions de travail. À la fin du mois de mai, les salaires des députés bissau-guinéens sont passés de 650 000 à 850 000 francs CFA, avec dotation d'un véhicule 4x4 à chacun des 102 législateurs. Samedi dernier, le Parlement a adopté un budget de quelque 212 milliards de francs CFA, présenté par le gouvernement du Premier ministre Aristide Gomes après 3 années de crise politique.
Les rivaux sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar se sont entendus sur certains points, selon les autorités soudanaises, et ils vont probablement signer un accord aujourd'hui à Khartoum. Précision de Raissa Girondin.
Les autorités soudanaises ont affirmé qu'un accord doit être signé aujourd'hui au palais présidentiel à Khartoum, sans donner plus de détails. Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont trouvé des points d'accord susceptibles de faire progresser les efforts de paix. Selon le quotidien kényan Daily Nation, le projet d'accord prévoit un cessez-le-feu, le déploiement d'une force africaine chargée d'en surveiller l'application et l'instauration de 3 capitales dans le pays pour répartir le pouvoir. Après leur rencontre la semaine dernière à Addis Abeba, les deux hommes se sont retrouvés hier à Khartoum pour tenter de mettre fin à une guerre civile fratricide. Ce conflit, depuis 2013, a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et a provoqué une crise humanitaire sans précédent. D'ailleurs, sur le terrain, un casque bleu du Bangladesh a été tué dans l'attaque d'un convoi humanitaire dans le sud du pays.
Au Maroc, les meneurs du Hirak, le mouvement de contestation sociale qui a agité le pays en 2016-2017, ont été condamnés mardi soir à Casablanca à des peines allant jusqu'à 20 mois de prison à l'issue d'un procès fleuve de 9 mois. Le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, ainsi que 3 autres meneurs, Nabil Amjik, Wassim Boustati et Samir Iguide, ont écopé de la peine la plus lourde pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Ils risquaient théoriquement la peine de mort pour un tel chef d'accusation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Cour suprême des États-Unis a validé hier le décret migratoire du président Donald Trump, lui offrant ainsi une victoire définitive après une âpre bataille judiciaire. Le point avec Bagassi Koura.
5 juges ont voté pour et 4 contre. L'arrêt de la haute cour entérine le décret qui interdit d'entrer de façon permanente sur le sol américain les ressortissants de 6 pays, pour la plupart à majorité musulmane. La Cour suprême des États-Unis a estimé que le président n'a fait qu'user de façon légitime de ses prérogatives en matière d'immigration. Et dans un tweet, M. Trump a salué, je cite, une fantastique victoire pour le peuple américain. Son décret avait provoqué un tollé mondial à sa promulgation une semaine après son arrivée à la Maison-Blanche. Par la suite, plusieurs juges ont bloqué son application et la Cour suprême met fin donc à la saga judiciaire. La troisième mouture de texte ferme les frontières américaines aux ressortissants du Yémen, de Syrie, de la Libye, de l'Iran, de la Somalie et de la Corée du Nord. Il bloque aussi l'entrée à certains responsables du Venezuela. Des dizaines d'associations de défense des migrants ou des organisations religieuses ont pris position dans ce débat.
D'autre part, toujours ici aux États-Unis, la Chambre des représentants doit voter aujourd'hui sur une proposition qui éviterait aux familles de migrants d'être séparées quand elles sont interpellées à la frontière avec le Mexique. Mais l'issue de ce vote reste incertaine. La majorité républicaine à la Chambre basse, incapable d'arriver à un consensus, a presque abandonné toute ambition de réformer profondément les politiques d'immigration des États-Unis. La proposition pourrait être rejeté après l'échec d'une autre tentative la semaine dernière d'adopter à ce sujet de plus fortes restrictions.
Le navire humanitaire Lifeline attend aujourd'hui de pouvoir accoster à Malte avec à son bord 233 migrants que 6 pays européens, dont l'Italie et la France, ont accepté de prendre en charge, selon les dirigeants italiens et français. Les migrants seront répartis sur 6 pays à raison de quelques dizaines d'individus par pays d'accueil, a précisé le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Rome à l'issue d'une visite au pape François. Monsieur Macron a par ailleurs indiqué avoir discrètement rencontré la veille Giuseppe Conte et évoquer avec lui le dossier des migrants qui empoisonnent les relations entre la France et l'Italie.
Le chef de l'armée birmane et 12 autres hauts gradés responsables d'une offensive systématique et orchestrée contre les musulmans Rohingyas doivent être poursuivis pour crimes contre l'humanité, a estimé aujourd'hui Amnesty International, demandant que la Cour pénale internationale soit saisie. Entre août et décembre 2017, plus de 700 000 Rohingyas ont fui une offensive de l'armée birmane lancée en représailles d'attaques de postes de frontière par des rebelles Rohingyas. Ils ont trouvé refuge au Bangladesh, où ils vivent depuis dans d'immenses campements de fortune.
En Malaisie, des biens saisis dans le cadre de l'enquête pour détournement de fonds visant l'ex-premier ministre malaisien Najib Rajak, incluant des bijoux et des sacs de luxe, sont estimés jusqu'à 234 millions d'euros, a annoncé mercredi la police locale. Le nouveau gouvernement, issu des législatives du 10 mai, dirigé par le premier ministre Mahathir Mohamad, 92 ans, avait annoncé qu'il souhaitait récupérer les fonds détournés de la société publique créée par M. Najib peu après son arrivée au pouvoir en 2009. Cette société est endettée aujourd'hui à hauteur de 10 milliards d'euros. L'ex-premier ministre, soupçonné d'avoir détourné environ 640 millions d'euros, a toujours nié toute malversation. Fin de ce journal sur VOA Afrique.
Et maintenant, le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pinault.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Scénario à suspense hier soir dans le groupe D. L'Argentine a crucifié les espoirs nigérians dans les ultimes minutes. Lionel Messi avait inscrit un premier but dès la 14e minute de jeu. Mais en seconde période, Moses a inscrit le but de l'égalisation nigériane sur pénalty. L'Argentine qui pousse alors pour repasser devant et qui trouve finalement la faille à la 86e minute de jeu. Marcos Rojo, d'une frappe limpide du droit, libère tout un pays. Ce même Rojo, auteur d'une main dans la surface de réparation. Mais l'arbitre, assisté par la vidéo, a estimé qu'elle n'était pas volontaire. Immense déception pour le Nigeria qui avait son destin entre les mains. Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, s'est dit fier de son équipe qui, selon lui, a manqué d'expérience pour tenir le score. Quant aux Croates, les leaders de ce groupe D et déjà qualifiés, ils ont battu l'Islande 2-1. En huitième de finale, donc, la Croatie affrontera le Danemark, l'Argentine, la France. La France, dans un match ennuyeux, a fait match nul 0-0 contre le Danemark. Défaite 2-0 de l'Australie face au Pérou. Et à suivre ce mercredi dans le groupe E, le Brésil de Neymar et Coutinho face à la Serbie pour une finale à suspense. La Suisse bien placée pour se qualifier en cas de victoire contre le Costa Rica, déjà éliminé. Dans le groupe F, le Mexique a besoin d'un nul contre la Suède pour terminer premier du groupe. Les Suédois doivent impérativement l'emporter. Quant aux champions du monde allemand, ils affrontent la Corée du Sud pour éviter une élimination historique. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. Qui ne se souvient de la célèbre boutade de Gary Lineker, le buteur anglais des années 80-90? Le football est un sport qui se joue en 11 et où l'Allemagne finit toujours par gagner. En fait, la vedette britannique rendait hommage à justice, à l'opiniâtreté, à la force mentale d'une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. Cette boutade, une nouvelle fois prémonitoire, a repris tout son relief au lendemain de la victoire miraculeuse de l'Allemagne dans le match de la survie samedi contre la Suède. Et quand l'Allemagne gagne sur le fil, généralement elle monte en puissance et réajuste le tir. Or, les Allemands savent maintenant que seule une victoire de 2 buts d'écart peut garantir à l'absolu une qualification. La possibilité de se retrouver avec 3 équipes à 6 points n'étant pas écartée au cas où la Suède venait à gagner contre le Mexique. Pour toutes ces raisons, le 3e match contre la Corée sera donc pris très au sérieux par une équipe jamais aussi efficace et concentrée que lorsque l'objectif est aussi clair. Pourtant, ce match Allemagne-Corée du Sud ressemble à s'y méprendre au match piège tant redouté. Tout d'abord, dans une opposition de style parfaite, les Asiatiques ont à démontrer leur vivacité habituelle et leur tendance à bien finir les rencontres. Par ailleurs, l'axe défensif allemand, la véritable rampe de lancement de ses orientations offensives, vient de perdre son patron Bautin, suspendu après l'absence ou blessure de son acolyte Hummels, si utile aussi dans le jeu aérien. Et si l'histoire de David et de Goliath se répétait une fois de plus, réponse ce mercredi au magnifique stade de Kazan. À bientôt.
Et enfin, jeudi aura lieu la grande finale du groupe G entre l'Angleterre et la Belgique. La Tunisie tentera de sauver l'honneur face au Panama. Dans le groupe H, le Sénégal a son destin entre les mains et doit battre ou faire match nul avec la Colombie pour se qualifier. Co-leader de ce groupe, le Japon affronte la Pologne, déjà éliminée. C'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point sur le tournoi ce soir sur VOA Afrique. Et à tout moment, vous retrouvez les dernières infos et les résultats sur notre site internet voaafrique.com et notre page Facebook. À très vite.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ouverture hier au Tchad du procès de l'ex-gouverneur de la région du Logon Oriental et de ses complices dans l'affaire de tentative d'assassinat de maître Doumra Manassé et de ses clients qui avaient été relaxés par la justice de Doba. Le point avec notre correspondant André Kodmadjingar.
À l'ouverture de l'audience d'instruction, les avocats de la partie civile ont déploré le fait que le commandant de la Légion de la Gendarmerie de Doba, pièce maîtresse dans cette affaire, soit toujours en cavale alors qu'il a été auditionné sur procès verbal avec les 5 autres prévenus par une institution judiciaire. Répondant aux questions du président du tribunal, Adam Nouki Sharfadine a déclaré, je cite, « J'agis en tant que garant des institutions régionales pour garantir la vie de Omaru Magadi, chef de la communauté Peul, arrêté avec des armes de guerre puis relaxé par la justice. Pour lui, ce type est un coup port de route et sa libération risque de troubler à l'ordre public, tranche-t-il. Un incident est survenu au moment où la parole a été donnée à maître Doumra Manassé, l'auteur de la plainte, pour s'expliquer des faits. Il en a profité pour dénoncer la célérité avec laquelle le procès se déroule. Le premier substitut du procureur de la République, Nedo Gérard, pique une colère sans pareil et demande au président du tribunal de suspendre l'audience. Aussitôt dit, aussitôt fait. Réaction de maître Kagome Alain, l'un des avocats de la partie civile.
Même si le procureur a changé de camp, je crois qu'il est parti au procès comme la partie civile également. Pour nous, ça participe aux manœuvres d'intimidation, de bâillonnement, qu'on laisse les gens s'exprimer librement. Et nous, on ne compte pas marcher au rythme du procureur de la République. Il n'a pas la police d'audience.
Pour maître Ndjerandi Laguerre Diaoro, toujours de la partie civile, si Omaru Magadi est en vie, qu'il soit présenté à la prochaine audience.
S'il est au renseignement généraux ou bien à l'ANS, en quoi ça peut être impossible au parquet de demander qu'on amène cette personne, même si on veut encore le garder, qu'on l'amène à l'audience sous escorte. Et quand on aura fini de l'écouter, c'est ça qu'on peut le ramener. Parce que s'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on est en train de nous cacher? Est-il en vie? Mais s'il a envie, pourquoi c'est aussi compliqué de le faire comparaître? S'il est mort, mais ça change toute la donne.
À la reprise, le débat tourne autour de la demande de la mise en liberté provisoire pour des raisons de santé du prévenu Adam Nouki Sharfadine, introduite séance tenante par les avocats de la défense. Le président du tribunal vide la 16e sur siège en rejetant la demande et renvoie le dossier au 28 juin prochain pour les plaidoiries. Maître José Pamkere, l'un des avocats de la défense, dit ne pas être surpris par la décision du tribunal.
Cette décision de rejet, de mise en liberté provisoire de l'ex-gouverneur ne m'étonne pas en tant qu'avocat. Et je comprends les magistrats dans cette prise de décision. J'espère peut-être que le juge pourra apaiser l'esprit de la partie civile dans sa souveraineté à préférer rejeter cette demande de mise en liberté provisoire dont nous n'entendons pas interjecter appel pour la simple raison que la cause est renvoyée au 28 pour être plaidée au fond.
André Kodmadigar Ndjamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
En Côte d'Ivoire, ouverture cette semaine à Abidjan du 2e Forum international du logement social économique autour du thème « Relever les défis du logement en Afrique ». Cette rencontre doit se terminer mercredi. Notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara est allé à la rencontre de certains participants. Son reportage.
Relever les défis du logement en Afrique, c'est le thème de cette 2e édition du Forum international du logement social, économique et standing. Un forum qui réunit les professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Il s'agit notamment des promoteurs immobiliers, des architectes, des urbanistes, des géomètres, des institutions financières et autres fabricants de matériaux. Sur les enjeux de ce forum, les explications de Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire.
Nous allons travailler durant 3 jours sur la problématique liée à toute la chaîne de production de logements. Le foncier, le financement, la fiscalité, la formation des jeunes. La volonté politique est là. Il appartient aux opérateurs économiques privés de se faire accompagner par l'État et de produire des logements en masse pour loger, évidemment, le maximum, en tout cas, d'Ivoiriens.
Les participants venus de plusieurs pays, dont la Turquie, l'Espagne, l'Égypte, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ce forum est une belle opportunité d'échange. On écoute ce participant béninois.
La décision du gouvernement d'imposer aux certaines structures bancaires d'octroyer des crédits à un taux de remboursement de 5% pour pouvoir faciliter l'acquisition des logements en Côte d'Ivoire. C'est de très belles innovations. La réalité ivoirienne est tout à fait différente de la réalité béninoise. La Côte d'Ivoire a pris le devant sur le Bénin parce qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont très actifs alors qu'au Bénin c'est encore inactif.
Pour cet autre participant ivoirien, le géobéton peut être une solution à la problématique du logement social en Afrique.
Nous devrons construire des logements sociaux, mais pour pouvoir construire, il faut des matériaux de qualité. Nous avons, au niveau du laboratoire, depuis des années, mis en œuvre le géobéton. Certainement, le géobéton pourrait être une solution pour rendre les coûts abordables aux économiquement faibles.
Les logements sociaux, une réponse aux quartiers précaires et au phénomène des inondations, selon Cédric Sangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire.
Vous comprenez bien que ceux qui sont dans les quartiers précaires, c'est ceux évidemment qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la capacité financière d'avoir un logement. C'est pourquoi nous encourageons évidemment le processus du lancement du programme des logements sociaux pour pouvoir reloger tout cela, afin que tout Ivoirien puisse avoir un toit.
Avec plus de 5 millions d'habitants, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, fait face depuis quelques années à un grand déficit en logement. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
L'Algérie a expulsé plus de 10 000 migrants africains depuis le début de l'année. Certains sont abandonnés dans le désert près de la frontière avec le Niger. Idriss Fall fait le point avec Giuseppe Lopresti, le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations au Niger.
L'OIM au Niger a remarqué une augmentation sur la route de l'Algérie, venant de l'Algérie, mais aussi vers l'Algérie, des migrants en transit. Donc depuis septembre 2017, environ 10 000 personnes de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été retrouvées dans les déserts, sauvées par des missions de sauvetage de l'OIM avec le gouvernement du Niger. Tout le monde est arrivé en conditions très difficiles parce qu'ils ont marché dans les déserts déhydratés et en conditions psychologiques très préoccupantes.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'est parce qu'ils ont été expulsés par l'Algérie ou bien ils se sont perdus eux-mêmes dans le désert?
Il y a trois différentes situations. Le cas plus fréquent, ce sont les migrants qui ont été abandonnés dans le désert par les autorités algériennes. C'est ça l'histoire que la majorité des migrants nous ont racontée. Ils étaient dans les chantiers en Algérie ou bien dans les différentes villes d'Algérie. Et à un moment donné, ils ont été transportés vers la frontière du Niger et déposés à environ 10-15 kilomètres de la frontière. Et après, ils ont marché vers le Niger. La deuxième situation, ce sont des migrants qui étaient en transit vers l'Algérie et qui ont été stoppés juste après la frontière. Et il y a un troisième cas, des migrants qui étaient même en Libye et qui sont rentrés au Niger à travers l'Algérie, ont payé des transporteurs pour rentrer au Niger, d'où l'impossibilité de traverser la Méditerranée et de rester soit en Algérie ou dans les autres pays.
Et qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes-là qui sont ramenées au Niger?
Depuis le début de l'année, l'OIM a facilité des retours volontaires d'environ 9300 personnes. Donc, elles sont rentrées déjà dans leur pays d'origine. On a bien travaillé avec les services consulaires de toutes les ambassades. Ce sont des projets qui sont financés par les fonds fiduciaires de l'Union européenne et certains pays membres de l'Union européenne aussi. Et il y a encore environ 1000 migrants qui sont avec nous à ce moment. Et dans les différents centres de l'OIM au Niger, il y a 6, donc 3 dans la région d'Agadez et 3 à Niamey. Pour les migrants qui sont avec nous à ce moment, on est en train de suivre toute la procédure pour faciliter le retour sur base volontaire. Mais il y a aussi des cas de protection qui doivent rester un peu plus ici au Niger. Victimes de traite, mineurs non accompagnés et migrants qui sont malades ou qui ne sont pas en condition de voyager à ce moment.
C'était Giuseppe Lopresti, représentant de l'OIM au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée le 8 mai dernier est en phase de stabilisation selon les autorités. Aucun nouveau cas n'a été signalé ces derniers jours. Le point avec notre envoyé spécial à Kinshasa, John Linden.
Pour le gouvernement congolais, la situation semble se stabiliser quant à l'épidémie d'Ebola. En effet, aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis plus de deux semaines, selon le titulaire de la santé à Kinshasa.
Le 6 juin, nous n'avons pas eu de nouveaux cas confirmés. Donc c'est une situation qui est très bonne. Et alors, par ailleurs, en fait, nous avons eu au total 38 cas confirmés, 18 décès probables. Nous avons eu 28 décès au total et parmi ces décès, donc nous avons eu 14 décès parmi les cas confirmés.
Ces résultats sont le fruit des efforts consentis à la fois par les autorités de Kinshasa et les partenaires internationaux. Ils sont aussi le fait de l'introduction dans la lutte contre l'épidémie d'un vaccin expérimental dont le rôle s'est avéré crucial.
Le vaccin nous a permis en fait de casser très rapidement la chaîne de transmission, surtout en vaccinant les contacts et les contacts des contacts, nous sommes parvenus à casser la chaîne de transmission.
Malgré ces résultats, des questions demeurent sur ce vaccin, notamment sur ses possibles effets secondaires. Toutefois, les autorités rassurent.
Nous n'avons pas observé d'énormes effets secondaires majeurs par rapport à ce vaccin. Moi-même, j'ai été vacciné et donc j'ai pas eu d'effets secondaires majeurs.
Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'Ebola en RDC. Le pays semble avoir acquis une expérience aujourd'hui reconnue dans la gestion de telles épidémies.
L'élément le plus important, c'est d'avoir un nombre limité d'agents sur le terrain qui agissent, qui collaborent sous le leadership du gouvernement. C'est vraiment l'élément le plus important parce que lorsqu'on a beaucoup d'agences sur le terrain et qu'il n'y a pas de coordination, il y a vraiment le risque d'avoir un chaos sur le terrain.
Pour le moment, le chaos semble avoir été évité, en particulier ici à Kinshasa où beaucoup craignaient qu'Ebola n'arrive et se propage. John Linden, VOA Afrique, Kinshasa.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633 et au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.